En fait, je ne sais pas si c'est la peine que je partage ce que j'avais prévu ce matin, parce que quand je vois tout ça, je me dis que ça roule. Vous allez bien? Est-ce qu'on peut afficher la première slide du PowerPoint? Alors, je ne sais pas chez vous, enfin chez moi, j'ai le privilège et la joie d'avoir une vigne devant chez moi. C'est super, on a une super jolie vue. Et les vignes commencent à redevenir vertes. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, si vous avez eu l'occasion de rouler un petit peu dans la campagne. C'est très joli. Il commence à y avoir un petit peu des petites feuilles qui commencent à sortir. Ça commence à pousser. Et voilà, le vigneron, il est passé en début d'année pour la tailler parce que ça améliore les récoltes. Ça permet d'obtenir de plus belles grappes de raisin, bien fournies, avec de bonnes qualités gustatives, de belles couleurs. Et d'ici quelques semaines, la vigne va commencer à bourgeonner. Et après les bourgeons, il va y avoir les fruits. Et après les fruits, on va les récolter. Et on va avoir du bon vin. On utilisera pour prendre peut-être la Sainte Cène et de nous souvenir ce que Jésus a fait pour nous. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur une parole de Jésus qui parle justement de la vigne et plus précisément d'un vigneron, d'un cep et de sarment. Vous connaissez ce passage. Comme le vigneron prend soin de sa vigne pour qu'elle porte beaucoup de fruits, je crois que Dieu prend soin de l'Église pour qu'elle porte beaucoup de fruits, du bon fruit. Du fruit comme le raisin qui nous fait nous souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. Et en tant que disciples de Christ, nous sommes appelés à porter du fruit dans nos vies. Et j'aimerais qu'on puisse, si vous avez vos Bibles, prendre l'évangile de Jean, puisque vous avez vos Bibles, mais ça sera affiché aussi. Hein, donc. On va prendre l'évangile de Jean au chapitre 15 et on va lire les versets 1 au verset 12. Alors pour ceux qui n'ont pas leur Bible... Je vais essayer de... Hop ! Ça va venir. C'est bon. Ah oui ! Écoute, tu le feras et puis je te dirai. Oui, donc ça, c'est juste pour vous rappeler, on va parler donc de... On va lire le texte dans Jean 15, et dans Jean 15, Jésus, vous allez voir, nous parle d'un cep avec des sarments, donc c'est juste pour vous figurer. Donc voilà le cep, il y a le cep qui est ici, et puis les sarments, les petites branches qui poussent où il y a les fruits. Voilà, c'était juste un petit rappel. On peut passer. Moi, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep, vous, les sarments. Celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Un texte très riche. Il y a beaucoup de choses et j'aimerais aborder quelques points à partir de ce texte. Mais j'aimerais prier. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce qu'elle est la vérité. Merci parce qu'elle nous parle. Et vraiment, je te prie qu'elle nous parle à chacune et à chacun ce matin, Seigneur. Qu'elle fasse son œuvre dans nos vies. Tu dis que ta parole ne retombe pas à terre sans avoir produit son effet. Vraiment, ma prière ce matin, c'est que à toutes et tous, Seigneur, tu parles, tu construises, tu bâtisses, tu relèves, tu corriges. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, Seigneur. Amen. Dieu est le maître de l'histoire. C'est lui qui juge et qui émonde. Le paragraphe précédent, Jean 14, se termine avec Jésus qui explique à ses disciples qu'il agit comme le Père le lui a commandé. Il place ses dernières heures sous le commandement de son Père. Je fais ce que le Père m'a commandé de faire. Et c'est lui qui supervise tout, le Père, qui veille à chaque détail pour que le plan qu'il a prévu depuis le commencement s'accomplisse exactement comme il l'avait prévu. Et dans cette image que Jésus utilise, dans cette métaphore, je dirais, nous voyons dans les premiers versets le vigneron qui prend soin du cep. Alors que Jésus va devenir la source de toute vie, vous savez, c'est tous les « je suis » de Jésus, le pain qui donne la vie, la lumière du monde, la porte, le bon berger, la résurrection et la vie, le chemin, la vérité, la vie, le vrai cep. Le Père s'occupe du cep. Il va s'occuper des sarments, les tailler pour qu'il y ait du fruit en abondance. Depuis le commencement et jusqu'à la fin des temps, Dieu est maître de l'histoire. Pour l'éternité même, je dirais. Et rien n'échappe à son contrôle. Et déjà ça devrait nous donner un sentiment de sécurité et de foi pour continuer d'avancer, même quand les circonstances voudraient nous faire nous décourager, voudraient nous faire stopper. Dieu les utilise en fait pour nous émonder, il nous est dit dans ce texte, afin que nous portions plus de fruits. C'est ce que nous disent les paroles de Jésus. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Émonder, c'est couper. C'est enlever. Et c'est ce que le Père fait. C'est l'œuvre du Père. On va lire un passage dans Hébreux 12, si tu veux passer la slide, merci. Une manière de Dieu d'agir. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime et frappe de verge tout fils qu'il agrée. Toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie, mais plus tard elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. Sur le moment, la discipline est plus douloureuse qu'agréable, mais avec le temps, le texte nous dit, elle procure un paisible fruit de justice à celle qu'elle a formée. Discipliner, au-delà de la correction elle-même, c'est former, c'est enseigner, c'est corriger, c'est redresser. Quand j'ai discipliné mes garçons, mes enfants, quand je discipline un garçon, une fille qui a fait une bêtise, je lui fais comprendre que ce n'est pas bien et qu'il ne faut pas qu'elle recommence, qu'il y a un autre chemin plus vertueux, qu'il ou elle peut me faire confiance pour la protéger, le protéger. Je l'aide à grandir et à devenir responsable face à ses actes. Dans le contexte d'Hébreux 12, le texte qu'on a lu, il est question de la persécution au travers de laquelle Dieu émonde ses disciples. Si on lit en Hébreux 12 les versets 3 et 4, alors ils ne sont pas notés, mais je vais vous les lire, il est dit ceci, « Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Wow. » Et si on revient au chapitre 15 de l'évangile de Jean, plus loin, Jésus va rappeler cette parole à ses disciples, « Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » C'est au verset 20. Voilà, alors ce n'est pas la seule façon pour le Père d'émonder, mais c'est une des façons qu'on voit dans la parole de Dieu. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que Dieu est souverain dans les épreuves que nous traversons, que ce soit la persécution, que ce soit les difficultés, que ce soit les calamités. Que ce soit la persécution, les difficultés ou les calamités, rien ne vient au sarment bon gré mal gré, si je veux dire. Elles ne sont pas sans but et elles ne sont pas aléatoires. Le vigneron les permet pour que nous produisions plus de fruits. C'est ce que nous dit Jésus. Notre union à Christ, notre attachement au cep, est intensifié par ces épreuves qui sont contrôlées par le Père, en quelque sorte. Et dans cette métaphore, qu'il ne faut pas pousser trop loin non plus, le vigneron n'est pas la sève ou la vigne, mais son travail d'émondage, son travail de taille, de soin, a une incidence profonde sur notre expérience de la sève et de la vigne. Pour illustrer, on pourrait prendre ce passage dans 2 Corinthiens, au chapitre 1, versets 8 et 9. « Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Mais nous, en nous-mêmes, nous avions accepté notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. » L'émondage dans la vie de Paul, il a été tel que ça l'a aidé profondément à demeurer en Christ, et cela jusqu'à la mort. Donc j'aimerais vous dire ce matin, si vous traversez des épreuves en ce moment, je prie Je prie, Dieu, vraiment que cela fortifie votre foi en Dieu, qui est maître de l'histoire, que vous lui fassiez confiance et qu'au travers de ces épreuves, vous vous approchiez toujours plus de Jésus, qui est celui qui donne la vie. Il est le cep. Nous voyons dans ce texte que le vigneron ne fait pas qu'émonder les sarments qui portent du fruit. Si on relit un petit peu plus haut, il retranche aussi les sarments qui ne portent pas de fruits. Et plus loin, il nous est dit que ces sarments sèchent et sont jetés au feu. Waouh ! Alors, pour être honnête, ce texte m'a posé un petit problème, quand même. Est-il possible que Jésus nous dise qu'un sarment, un de ses disciples, qui a la vie éternelle, puisse la perdre et être finalement condamné ? Parce que ça serait en totale contradiction avec ce que j'ai compris du reste de l'Évangile et de toutes les Écritures. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez. Et c'est important car le verset 2 indique qu'il est possible qu'un sarment qui est en moi, nous dit Jésus, soit coupé et périsse. Tout au long des Évangiles, Jésus s'efforce d'enseigner le contraire. Mais il y a une sorte d'attachement à Jésus qui n'est pas salvateur. Une sorte de disciple, de croyant, qui n'en est pas vraiment un. Vous connaissez tous ce sketch des Inconnus, il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur. Voilà. En d'autres termes, voilà, il y a le croyant et il y a le vrai croyant. Il y a le disciple et il y a le vrai disciple. Si tu peux passer la slide, Jean 6 au verset 37, on va dire les versets 37 à 39, « Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. » Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, écoutez bien, voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. En d'autres termes, Dieu a un peuple avant qu'ils viennent à Jésus, et ils viennent, tous viennent, et lorsqu'ils viennent, ils ne les rejettent pas. Pas un seul sarment. Si on lit un peu plus loin dans l'évangile de Jean, « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. » Et également en Jean 10, les versets 26 à 30, « Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout. Que tous, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Amen. C'est ce qui distingue les brebis qui suivent le bon berger. Elles entendent sa voix. Elles croient, elles écoutent. Alors, qui est donc ce serment en moi, nous dit Jésus, qui est perdu ? Dans l'évangile de Jean, on voit qu'il y a des croyants qui ne sont pas de vrais croyants, des disciples, comme je l'ai dit, qui ne sont pas de vrais disciples. Même parmi les 12, l'un d'eux va trahir Jésus. Et Jésus le savait dès le début lorsqu'il l'a choisi. De même, il y a des serments qui ne sont pas de vrais serments, si je puis dire. On va lire les versets suivants sur la prochaine slide. « Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il disait, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. » Il y avait ces sortes de disciples de Jésus, mais ils se sont éloignés. Et Judas est l'exemple le plus frappant. Il a été quelque part attaché à Jésus, comme ce sarment au cep, en quelque sorte pendant 3 ans, dans le cercle le plus intime de Jésus. Mais il n'était pas un vrai croyant. Hein ? Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas, car Jésus savait dès le commencement qui était celui qui ne croyait pas et qui était celui qui le livrerait. Donc si je repose la question, est-il possible que Jésus nous dise qu'un sarment, un de ses disciples qui a la vie éternelle, puisse la perdre et être finalement condamné ? La réponse est clairement non. Les sarments qui sont coupés sont de soi-disant croyants, mais ils ne sont pas vraiment en Christ. « Si vous demeurez dans ma parole, nous dit Jésus, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Le fait de demeurer attaché au cep ne fait pas de vous un vrai disciple, Cela prouve que vous l'êtes. Si ce matin tu as donné ta vie à Christ, si tu crois de tout ton cœur qu'il a donné sa vie pour toi et décidé de le faire Seigneur de ta vie, de demeurer dans sa parole, alors tu es un disciple de Christ. Tu n'es pas un serment qui sera coupé et jeté au feu, mais tu es un serment que Dieu va tailler, va émonder pour que tu portes toujours plus de fruits. Mais si tu ne crois pas que Jésus est mort pour toi, alors là, ça se complique. Et c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère du tout. Le vigneron vient, il coupe, il enlève le serment, et ce serment est jeté au feu. Et il viendra un temps où Dieu viendra pour juger. Et il sera trop tard. Donc ce matin, si tu entends la voix de Dieu, si tu entends Jésus frapper à la porte de ton cœur, te dire combien il t'aime et qu'il a donné sa vie pour toi, n'endurcis pas ton cœur, comme nous dit Hébreux. Mais viens à lui. Il est la source de la vie. Il n'y en a pas d'autre. Ce qu'on voit dans ce texte aussi, c'est que la communion à Christ est incontournable pour porter du fruit. Merci. À plusieurs reprises, Jésus va dire que sans communion avec lui, nous ne pourrons pas porter de fruit. Verset 4, « Demeurez en moi comme moi en vous, de même que le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus si vous ne demeurez en moi. » Et il va se répéter au verset 5, « Moi je suis le cep, vous les serments, celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Je pense qu'il surligne le message. C'est une chose de croire, de le croire, ça, et c'en est une autre de le vivre. Je dois confesser, personnellement, que bien souvent, je vis mes journées sans apprendre à demeurer en lui, à compter sur lui pour toute chose. Et le danger, ici, est d'essayer de porter du fruit par ses propres forces, ce qui est impossible. C'est ce que nous dit Jésus. Par nature, le serment, déconnecté du cep, ne peut produire du fruit. C'est l'œuvre de Jésus en moi qui va me permettre de grandir et de porter du fruit dans ma propre vie et autour de moi. Ce n'est que dans une communion intime avec Jésus, moi en lui et lui en moi, que je verrai le fruit grandir et être abondant. Et la réalité, en fait, c'est que moins nous ressentons notre besoin de Jésus, moins nous demeurons en lui. C'est pas vrai ? Je ne suis pas sportif pour deux sous. Vous connaissez, hein ? Certains me connaissent bien. Et bien que je sache que ce serait essentiel pour moi de pratiquer du sport, important pour ma santé physique, pour mon corps, pour ma santé mentale, je ne suis pas sportif pour deux sous. Parce que les temps que je pourrais consacrer à ça sont toujours satisfaits par d'autres choses qui me font perdre de vue ce besoin vital pour ma vie. Et moins je ressens ce besoin vital, moins je fais de sport. Et donc logiquement, si je ne fais pas de sport, un minimum d'exercice, je vais en payer les conséquences tôt ou tard. De même, si j'en fais régulièrement, j'en verrai les fruits bénéfiques pour ma vie. C'est la même chose. Si nous ne demeurons pas en Jésus, nous ne pouvons pas porter du fruit. Quand Jésus nous commande de demeurer en lui, il ne nous donne pas un idéal élevé à atteindre comme une phrase inspirante ou un slogan qu'on verrait sur un panneau publicitaire. Il ne considère pas non plus cela comme une option pour des chrétiens plus sérieux qui voudraient vivre une vie plus profonde. Il nous dit que nous ne pourrons pas porter du fruit sans demeurer en lui. C'est incontournable. Si tu veux porter du fruit, tu dois avoir une communion avec Christ. Demeurer en lui et que Christ demeure en toi. Et je pense qu'on a besoin d'une prise de conscience profonde de notre besoin de dépendre de lui pour tout. Nous devons prier le cep et le vigneron, Dieu et Christ, de faire tout ce qu'il faut pour nous aider à nous accrocher au cep et prouver notre connexion par le fruit que nous portons. Et ça doit passer par le fait de réaliser qu'on est impuissant, qu'on est faible. Car le serment, le plus susceptible de demeurer dans le cep, est celui qui ressent sa propre impuissance. Tout au long des évangiles, Jésus s'efforce d'enseigner le contraire. Pardon, excusez-moi. Trompe de page. Tu peux passer la slide. 2 Corinthiens 12, verset 10. C'est pour ça que Paul dit « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car en effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » C'est quand on réalise qu'on a besoin de Christ qu'on est fort. C'est quand on réalise qu'on est faible qu'on est fort. Dieu a utilisé ces choses pour pousser Paul à dépendre de la grâce de Christ plutôt que de lui-même, et il a appris à être reconnaissant pour ça. Si nous sommes disciples de Jésus, alors nous sommes appelés à continuer sa mission, à faire ses œuvres en obéissant à sa parole et en mettant en pratique son commandement de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Jésus, il a abandonné sa vie pour nous. Il a tout donné. Il a tout supporté. Il a manifesté son amour pour nous de façon ultime. Et c'était son choix. C'était la volonté de son Père. Malgré ce que ça lui a coûté, il est allé jusqu'au bout pour nous. Et il nous appelle aujourd'hui à faire de même. À abandonner nos propres vies pour le servir, pour continuer la mission que Jésus a commencée, la mission qu'il a commencée, d'annoncer la bonne nouvelle pour que nous avons en lui. Il nous appelle à aimer sans condition. Il nous appelle à tout donner sans condition. Il nous appelle à tout supporter sans condition. Jusqu'à offrir nos vies tout entières, car nous sommes en Christ et Christ est en nous. On le chante, hein, on chante Galates 2:20. Je suis crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est facile de le chanter. Hein. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Est-ce que ça coûte ? Oui. Ça coûte, comme ça l'a coûté à Christ de livrer sa vie pour nous. Est-ce que c'est un choix ? Oui. Nous choisissons de servir, d'aimer et de donner nos vies. Est-ce que nous porterons du fruit ? Oui. Car Jésus est fidèle et nous promet un fruit abondant pour ceux qui demeurent attachés à lui. J'aimerais donner un petit témoignage tout récent que j'ai vécu. Farid m'a contacté la semaine dernière pour m'annoncer le décès du beau-frère de Jackie et qu'il fallait que nous organisions ses obsèques. Je dois confesser honnêtement que ma première réaction a été de botter en touche. De toute façon, j'avais plus de jours de congé, je ne m'en sentais pas capable. Et puis même si j'aime énormément Jackie, je ne connaissais pas son beau-frère ni sa famille. Après tout, quelqu'un d'autre fera ça très bien et mieux que moi. Alors on a commencé à passer des appels téléphoniques. Mais appel après appel, personne n'était disponible. Et puis à un moment, je me suis senti repris par le Seigneur. Es-tu mon disciple ? Pourquoi n'essaies-tu pas ? Pourquoi est-ce que tu te réfugies dans tes craintes ? Pourquoi ne comptes-tu pas sur moi ? Et au fond de mon cœur, j'aime énormément Jackie, et je voulais que son Église réponde présent dans ce moment si difficile à vivre pour elle et pour sa famille. Alors j'ai demandé à Dieu de conduire les choses. J'ai écrit à mon chef, je l'ai contacté, le lundi matin, enfin non, c'était pas le lundi matin, c'était le vendredi, pour lui demander si je pouvais quitter mon travail exceptionnellement plus tôt pour organiser ses obsèques. Je lui explique un petit peu de quoi il en retourne. Avec une partie de moi, si je suis honnête, qui espérait toujours que la réponse serait non. Mais ce n'était pas la réponse. La réponse fut, et exactement ces mots, « Vas-y Pierre, fonce ». Est-ce que ça m'a coûté ? Oui, ça m'a coûté. Est-ce que ça a été parfait ? Pas été capable de mettre les musiques qu'ils avaient prévues dans le bon ordre. Mais dans son amour, Dieu a permis que Farid puisse aussi exceptionnellement se libérer, et nous avons géré ce temps à deux, et avec Cathy aussi, qui était là. Et en faisant confiance et en comptant sur Dieu, j'ai grandi. J'ai appris. J'ai vu une famille touchée par notre amour et par l'amour de Dieu, même si tout n'a pas été parfait. C'est ce que Jésus nous demande. Demeurer en lui et lui faire confiance quand il nous envoie. Au verset 7, il nous est dit « Priez, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez. Demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Et nous le faisons Quand Dieu nous demande d'aller distribuer des invitations pour un concert sur la place d'un marché. Ou alors aller distribuer des vivres et aimer les migrants dans leur centre d'hébergement. Aimer et enseigner les enfants le dimanche matin. Assister à un concert dont on sait qu'il ne nous plaira pas, pour être là pour les invités qui viendront afin de leur témoigner de l'amour. Inviter son voisin, inviter sa voisine, son collègue à un parcours alpha, dont on sait que cela peut changer radicalement sa vie à tout jamais. Encourager, prier pour son frère, pour sa sœur qui traverse un moment difficile. Préparer des soirées hommes, préparer des journées femmes, préparer des week-ends, toutes ces choses. Est-ce qu'on est prêt pour tout ça ? Pas toujours, si on est honnête. Et souvent non. Mais une chose est certaine, en demeurant en Christ et avec Christ en nous, en lui faisant confiance et en le priant pour lui demander son aide, nous porterons du fruit. Beaucoup de fruits, même si ce n'est pas parfait. Je ne sais pas si... Je suis reconnaissant parce que tout ce qui a été partagé avant, on le vit dans l'Église. Il y a énormément de personnes qui portent du fruit parce qu'elles ont choisi d'être en Christ et que Christ soit en elles et qui lui font confiance pour avancer. Et peut-être ce matin, il y en a parmi nous qui ont des rêves, qui ont des désirs, qui se sentent appelés par le Seigneur à les servir dans un domaine bien particulier, mais qui cogitent comme moi j'ai cogité et qui se disent « Non, ça va me coûter trop, ça va me demander du temps, je ne suis pas capable ou je ne suis pas... » J'aimerais te dire ce matin, c'est dans ta faiblesse que tu es fort, parce que tu es en Christ et que Christ est en toi. Et j'aimerais vous encourager ce matin à retrousser vos manches et un pas après l'autre à avancer dans ce à quoi le Seigneur vous appelle. Il y a énormément de choses à faire dans l'Église et au-delà. Dans l'année qui vient, on a envie de reprendre de l'évangélisation, on a envie de sortir. Peut-être que ça sera l'occasion pour vous de porter du fruit. Il y a plein de choses à faire. Donc voilà, demeurons en Christ, que Christ demeure en nous. Amen.
Amen.
Amen. Soyez bénis.